Actes des Apôtres, chapitre 12. Emprisonnement de Pierre, versets 1 à 6.
Lecture de la parole. Or, vers ce temps-là, le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua en faisant prendre aussi Pierre, or c'était les jours des pains sans levain, et quand il l'eut fait prendre, il le mit en prison, et le livra à quatre bandes de quatre soldats chacune pour le garder, voulant, après la Pâque, le produire devant le peuple. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Mais lorsque Hérode allait le produire, cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et des gardes, devant la porte, gardaient la prison.
Lecture de l'étude. Pendant que l'œuvre de l'Esprit Saint s'étendait en dehors de la Judée et parmi les Grecs, Satan déployait ses efforts à Jérusalem pour nuire aux chrétiens. Il se servait pour cela du roi Hérode, petit-fils d'Hérode le Grand, qui avait ordonné le massacre des petits-enfants de Bethléem. Il mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua en faisant prendre aussi Pierre, versets 1 à 3. Un homme sanguinaire comme ce roi se rendait aisément agréable aux Juifs en faisant mourir ceux qu'il haïssait. Sans qu'ils s'aimassent, leur haine commune les mettait d'accord, comme le précédent roi Hérode avec Ponce Pilate. Si des hommes s'unissent par haine pour Christ, la grâce de Dieu a opéré pour que les chrétiens s'unissent par amour pour Christ, rendus participants de la nature divine, car nous aussi, nous étions haïssables, nous haïssant l'un l'autre. Tite 3, verset 3, et ennemis de Christ.
Car nous étions nous aussi autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, haïssables, nous haïssant l'un l'autre.
Lorsque Hérode fit arrêter Pierre, c'était la fête des pains sans levain. Au lieu de l'exécuter immédiatement, il l'emprisonna pour le livrer aux Juifs après la fête. Dieu se servit du temps qui s'écoula afin d'exercer les frères de Jérusalem à la prière et aussi pour rendre évidente sa puissance en délivrant Pierre malgré les précautions prises par Hérode pour le garder sûrement. Il le mit en prison et le livra à quatre bandes de quatre soldats chacune pour le garder, voulant, après la Pâque, le produire devant le peuple. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui, versets 4 à 5. Or que peut l'homme en opposition à Dieu, dont la puissance est prête à intervenir quand il le trouve bon? Nous ne savons pourquoi Dieu permit que Jacques fût mis à mort, mais cet apparent succès d'Hérode fournit à Dieu l'occasion de lui montrer son impuissance et sa nullité. L'assemblée savait que Dieu pouvait délivrer son serviteur. La prière met en évidence la puissance de Dieu. Il peut agir sans elle, mais il veut que nos pensées et notre foi soient en activité devant lui, et avec lui, à l'égard de ce qui exerce nos cœurs. La fervente supplication du juste peut beaucoup, Jacques 5, verset 16. Dieu ne se pressa pas de délivrer Pierre, il attendit jusqu'à la dernière nuit. Cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et des gardes, devant la porte, gardaient la prison. Rien n'était plus impossible que de sortir Pierre de la prison. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. 16 soldats d'Hérode gardaient Pierre. Son seigneur et maître avait des myriades d'anges au service des siens, car ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Hébreux 1, verset 14. Délivrance de Pierre, versets 7 à 17.
Lecture de la parole. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison. Et frappant le côté de Pierre, il le réveilla, disant, « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Ceins-toi, et chausse tes sandales !» Et il fit ainsi. Et il lui dit, « Jette ton vêtement sur toi, et suis-moi !» Et sortant, il le suivit. Et il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Et ayant passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout d'une rue, et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Et Pierre, étant revenu à lui, dit, « Je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. » Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Et comme il heurtait à la porte du vestibule, une servante nommée Rhode vint pour écouter. Et reconnaissant la voix de Pierre, de joie elle n'ouvrit point le vestibule, mais étant rentrée en courant, elle rapporta que Pierre se tenait devant le vestibule. Et ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. Et il disait, « C'est son ange !» Et Pierre continuait à heurter. Et quand ils eurent ouvert, ils le virent et furent hors d'eux. Et leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il dit, « Rapportez ces choses à Jacques et aux frères. » Et sortant, il s'en alla en un autre lieu.
Lecture de l'étude. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison. Et, frappant le côté de Pierre, il le réveilla, disant, « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Ceins-toi et chausse tes sandales !» Et il fit ainsi, et il lui dit, « Jette ton vêtement sur toi et suis-moi !» Et sortant, il le suivit. Et il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Et ayant passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et, étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout d'une rue, et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Versets 7 à 10. C'est intéressant de considérer le soin avec lequel ce puissant messager céleste s'acquitte de sa mission. Pour lui, il n'existe aucun obstacle, ni muraille, ni garde, ni porte. Être spirituel, non assujetti à la matière, il se trouva dans la prison sans autre, comme il se trouvait dans les lieux célestes. Dans la prison, il apporte une lumière resplendissante, non pour lui, mais pour Pierre. Il trouve Pierre endormi, nullement agité par les desseins d'Hérode, confiant en Dieu, à qui seul il s'attendait. Il réalisait quelque chose de la paix qui remplissait le cœur de son maître lorsqu'il dormait sur la barque dans la tempête. Marc 4, versets 35 à 41.
Et en ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit, « Passons à l'autre rive. » Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle comme il était. Et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillent et lui disent, « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer, « Fais silence, tais-toi. » et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux, « Qui donc est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?»
David, dans une des circonstances les plus angoissantes qu'il eut traversées, dit, « Je me suis couché, et je m'endormirai, je me réveillerai, car l'Éternel me soutient. Je n'aurai pas de crainte des myriades du peuple qui se sont mises contre moi tout autour. » Psaume 3, versets 5 et 6. Plein de confiance en Dieu, sans volonté propre, nous pouvons tous réaliser ce repos dans les difficultés. L'ange réveille Pierre, le fait lever. Il n'a pas besoin de lui ôter ses chaînes. Elles tombent de ses mains, tandis qu'il lui dit de se chausser et de se vêtir lui-même, chose qui était au pouvoir de Pierre. Mais ce qu'il ne pouvait faire lui-même, l'ange le fait. Il le délivre de ses chaînes, ouvre les portes. Une fois prêt, non pour paraître devant le peuple, mais pour quitter la prison, Pierre n'a qu'à suivre l'ange tout naturellement, comme s'il sortait de chez lui. Il passe devant les gardes qui ne s'aperçoivent de rien. Devant eux s'ouvre, sans clé, la porte de fer qui conduisait à la ville. Arrivés au bout d'une rue, l'ange se retira, et Pierre, qui avait cru à une vision, étant revenu à lui, dit, « Je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. » Verset 11. Par une grâce merveilleuse de Dieu, les croyants occupent une position supérieure aux anges, puisqu'ils sont enfants de Dieu. Quant à nos corps, qui sont matériels, parce qu'ils appartiennent à la première création, nous leur sommes inférieurs. On voit passer l'ange à travers portes et murailles, sans qu'elles aient besoin de s'ouvrir, tandis que la porte s'ouvrit pour laisser passer Pierre. Pendant que nous sommes dans ces corps, nous avons besoin de leur service, et bientôt nous aurons des corps spirituels, semblables à celui du Seigneur qui, après sa résurrection, se trouvait au milieu des disciples, les portes étant fermées. Lorsque nous serons glorifiés, semblables à Christ, nous aurons hérité le grand salut dont il est question en Hébreux 1, verset 14 et 2, verset 3, et n'aurons plus besoin du service des anges.
Hébreux 1, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Hébreux 2, verset 3, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu?
Pierre, s'étant reconnu dans la rue, se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Verset 12. Il alla tout naturellement là où il trouverait des disciples. En effet, chez la mère de Marc, neveu de Barnabas, on priait pour lui. Voir Colossiens 4, verset 10.
Marc, le neveu de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu des ordres.
Et comme il heurtait à la porte du vestibule, une servante nommée Rode vint pour écouter. Et reconnaissant la voix de Pierre, de joie elle n'ouvrit point le vestibule. Mais étant rentrée en courant, elle rapporta que Pierre se tenait devant le vestibule. Et ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. Et il disait, « C'est son ange !» Versets 12 à 15. L'assemblée, est-il dit, faisait d'instantes prières à Dieu pour Pierre. Cependant, leur foi n'allait pas jusqu'à croire à un exaucement si merveilleux. Après avoir vu mourir Jacques, ils pouvaient douter de la délivrance de Pierre. Mais puisqu'ils priaient, ils croyaient bien que Dieu pouvait le délivrer. Sans cela, pourquoi prier? Cela nous montre que nous prions souvent sans croire à l'exaucement. Il est vrai que, pour avoir la certitude que Dieu nous exaucera, Il faut être assuré que ce que nous lui demandons répond à sa volonté. Si nous n'avons pas cette assurance, il faut lui demander qu'il nous la donne, et en tout cas lui dire si c'est ta volonté. S'agit-il, par exemple, de demander une guérison, une direction dans les événements, une foule de détails dans la vie pratique, il est quelquefois difficile de connaître la pensée de Dieu, mais nous pouvons placer tout cela devant lui, en toute soumission et confiance, et il répondra comme il lui plaira. Il y a cependant des choses à l'égard desquelles nous connaissons sa volonté. Tout ce qui contribue à le glorifier dans une marche fidèle, le désir de progresser dans la connaissance du Seigneur, la conversion de tel ou tel, enfin tout ce qui concerne les intérêts spirituels de nous-mêmes, des nôtres et de tous les enfants de Dieu, l'œuvre du Seigneur. Ce qui nous manque le plus souvent, c'est de vivre assez près de Dieu pour être plus familier avec ce qui lui convient. Qui est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Psaume 25, verset 12. Il y a un moyen de connaître la volonté de Dieu lorsque nous avons une décision à prendre. C'est d'examiner, dans sa présence, quel motif nous fait agir. S'il est selon Dieu, nous pouvons aller de l'avant. Si c'est pour une simple satisfaction personnelle ou en vue d'intérêts matériels, il faut s'abstenir. Dans le cas de Pierre, l'assemblée pouvait compter sur l'exaucement, car Pierre avait reçu du Seigneur, auprès de ses brebis, un service qui n'était pas encore accompli entièrement, et il savait de quelle mort il glorifierait Dieu, savoir la crucifixion. Jean 21, verset 19.
Or, il dit cela pour indiquer de quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il lui dit cela, il lui dit « Suis-moi ».
Les disciples répondent à Rhodes, c'est son ange, envoyé ou représentant. Ils pensèrent que c'était un représentant de Pierre et non lui-même. Mais lorsqu'ils le virent, ils furent hors d'eux. Leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il dit « Rapportez ces choses à Jacques et aux frères ». Et sortant, il s'en alla en un autre lieu, versets 16 à 17. Comme l'assemblée n'était pas au complet chez Marie, Pierre voulait que tous apprissent de quelle manière Dieu avait répondu à leur prière. Jacques, un des principaux frères de Jérusalem, appelé « frère du Seigneur », était l'auteur de l'épître qui porte son nom, Galates 1, verset 19.
« Et je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. »
Un autre apôtre, fils d'Alphée, un des 12, portait le même nom, mais le récit inspiré n'en parle plus après Actes 1, verset 13.
« Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre et Jean, et Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon Zélote et Jude, frère de Jacques. »
Enfin Hérode décapita Jacques, frère de Jean. Pierre jugea bon de quitter Jérusalem. Nous ne savons où il se rendit. Son activité se poursuivit. Mais l'Esprit de Dieu nous occupera surtout de celle de Paul, le grand apôtre des gentils, maintenant que Pierre leur a ouvert la porte du royaume des cieux, chapitre 10. Nous le retrouvons à Jérusalem au chapitre 15, de même que Jacques, versets 7 et 13. Dans une assemblée importante où il s'agissait de savoir si l'on devait imposer la loi aux croyants d'entre les gentils.
Acte 15, verset 7. Et une grande discussion ayant eu lieu, Pierre se leva et leur dit « Homme, frère ». Chapitre 15, verset 13, et après qu'ils se furent tus, Jacques répondit disant « Homme, frère, écoutez-moi, Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations. »
Là se termine le récit inspiré du ministère de Pierre qui continua pourtant jusqu'à sa mort, comme on le constate par ses épîtres, écrites vers l'an 66, tandis que ce que rapporte notre chapitre s'est passé vers l'an 44. Mort d'Hérode, versets 18 à 25.
Lecture de la parole. Mais le jour étant venu, il y eut un grand trouble parmi les soldats au sujet de ce que Pierre était donc devenu. Et Hérode, l'ayant cherché et ne l'ayant pas trouvé, fit subir un interrogatoire aux gardes et donna ordre qu'ils fussent emmenés au supplice. Et descendant de la Judée à Césarée, il y séjourna. Or, il était très irrité contre les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent à lui d'un commun accord, et ayant gagné Blast, le chambellan du roi, ils demandèrent la paix parce que leur pays était nourri par celui du roi. Et, à un jour marqué, Hérode, revêtu d'une robe royale, et assis sur une estrade, les haranguait. Et le peuple s'écriait « Voix d'un dieu et non pas d'un homme !» Et à l'instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu, et étant rongé par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait. Et Barnabas et Saul, ayant accompli leur service, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant aussi avec eux Jean, qui était surnommé Marc.
Lecture de l'étude. Si le cœur des disciples débordait de joie à la suite de la délivrance de Pierre, il n'en était pas de même chez les soldats qui devaient le garder, ni chez Hérode. Lorsque le jour fut venu, il y eut un grand trouble parmi les soldats au sujet de ce que Pierre était donc devenu, verset 18. C'est compréhensible. Ils avaient accompli leur devoir, mais le prisonnier qu'ils gardaient appartenait au Seigneur. Il était entre ses mains, non dans les leurs, ni dans celles d'Hérode. Il le leur avait ravi sans qu'ils s'en aperçussent. Il n'avait aucun pouvoir sur lui. Hérode, l'ayant cherché et ne l'ayant pas trouvé, fit subir un interrogatoire aux gardes et donna ordre qu'ils fussent emmenés au supplice, verset 19. Ces pauvres hommes payèrent de leur vie la délivrance de Pierre. Dieu le permit. Nous ne savons ce qui en fut de leur salut. Pierre les avait peut-être évangélisés durant les quelques jours qu'il passa avec eux. Quant à Hérode, le défi que Dieu lui jetait en cette occasion ne le fit pas réfléchir. Au contraire, dans son orgueil blessé, il quitta Jérusalem pour Césarée, où Satan lui présenta une occasion de rehausser sa dignité. Il était irrité contre les Tyriens et les Sidoniens, ses puissants voisins du nord, qui cependant avaient intérêt à rentrer dans les faveurs du roi, parce que leur pays était nourri par le sien. Ils vinrent à lui d'un commun accord, et, ayant gagné Blast, le chambellan du roi, ils demandèrent la paix, verset 20. C'était une affaire politique dans laquelle les uns trouvaient leur intérêt matériel, et Hérode une occasion de s'élever en croyant aux hommages qu'on lui présentait. À un jour marqué, Hérode, revêtu d'une robe royale et assis sur une estrade, les haranguait. Et le peuple s'écriait « Voix d'un dieu et non pas d'un homme » versets 21-22. En réponse aux flatteries du peuple, Hérode accepta un hommage divin aussi élevé que peu sincère de la part de ceux qui le lui présentaient. Il oubliait qu'il n'était qu'un homme et quel homme. Et à l'instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu, et, étant rongé par les vers, il expira, verset 23. N'ayant pas tenu compte de la leçon que Dieu lui donnait en délivrant Pierre, il tombe sous son jugement. On ne se moque pas de Dieu. Cet Hérode, roi sur le peuple juif, sans droit à cet honneur, sinon par l'autorité de Rome, représente l'Antichrist, persécuteur des fidèles dans l'avenir, qui sera aussi frappé, consumé par le souffle de la bouche du Seigneur, lorsqu'il viendra dans sa gloire. 2 Thessaloniciens 2, verset 8.
Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue.
On voit dans ce chapitre deux genres d'activité des anges. S'ils sont employés en faveur des croyants, ils exécutent aussi des jugements de Dieu. Malgré l'activité de l'ennemi, la parole de Dieu croissait et se multipliait. Et Barnabas et Saul, ayant accompli leur service, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant aussi avec eux Jean, qui était surnommé Marc, versets 24 au 25. Comme au chapitre 6, verset 7, la parole est identifiée avec les résultats qu'elle produit.
Et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi.
Elle croissait et se multipliait, car tout vient de la parole sous l'action de l'Esprit de Dieu. Après avoir porté à Jérusalem les secours des disciples d'Antioche, Barnabas et Saul reviennent dans cette ville où ils vont recevoir les directions de l'Esprit Saint pour leur service futur.